Cette semaine, dans le balado, on sent une présence, on bâtit une œuvre architecturale et on tente d'obtenir nos papiers de réfugiés. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut, salut! C'est la 13e prise. Non, c'est pas vrai.
Oui!
C'est une blague pour nous deux, finalement.
Donc,
ça fait une grosse journée, ça. Déjà, ce qu'on verra dans l'histoire de Soleiman n'obtient pas ses papiers de citoyenneté qu'il veut.
Effectivement. C'est à l'horaire d'un des films, à l'image plutôt d'un des films de cette semaine. Ça va être un long menu, mais on va essayer d'y aller assez vite quand même parce qu'il y a énormément de présence.
Oui, on va essayer de ne pas être obligé de mettre un entracte.
Je m'en allais là. Oui.
Ah, voilà.
Donc, t'as spoilé mon gag. Bon, c'est pas grave. Mais quand même des trucs très intéressants, dont évidemment un film très attendu pour peut-être les plus purs cinéphiles dans la tradition du mot.
Ben, quand on va commencer en nouvelle avec les Oscars, tout est dans tout cette semaine, en parlant du brutalisme, justement.
Oui, tout à fait.
Ben, avais-tu d'autres nouvelles avant d'attaquer cette grande annonce?
Ouais, okay, allons-y rapidement. Ben, juste mentionner quand même, tu sais, ça nous arrive toujours quand on enregistre le balado, puis finalement, une nouvelle qui tombe pas longtemps
après.
Oui,
c'est vrai.
Puis là, en plus, on avait enregistré jeudi, juste pour faire exprès la semaine dernière, vu que j'étais à l'étranger la semaine dernière. Donc, ben, quand même, juste saluer la disparition d'un des grands du cinéma, David Lynch, qui est décédé jeudi dernier à l'âge de 78 ans quand même. Un gros morceau. Même moi, je suis pas un grand fan, là, je dois avouer. Oui, puis j'ai pas tout vu.
Ben moi, je vais m'en confesser, je pense que j'ai rien vu.
OK.
En fait, même s'ils sont à l'écoute, je les remercie. On m'a prêté des DVD, puis je pense que je les ai encore, puis ils sont sous ma pile à écouter, mais justement, j'y vois tellement une forme de respect ou de sainteté que je suis comme, ben là, je le sais que ça va être weird, ça va être difficile à saisir, fait que c'est comme jamais le bon moment, je suis jamais prêt. Fait que je remets ça toujours à plus tard, un peu comme les Miyazaki aussi, beaucoup, c'est comme à un moment donné, mais on dirait que je suis toujours, ah là, je suis un peu trop fatigué, ah là, je sens que je vais écouter le film en deux parties, fait que je veux pas faire ça à ce film-là, fait que finalement, je prends jamais le temps ou l'opportunité de les faire. Fait que c'est un peu pour ça, Lynch, peut-être j'en ai vu un, mais écoute, je pense aucun, malheureusement, mais...
Peut-être même Mulholland Drive, peut-être?
Non, mais j'ai le DVD qu'il faut que je redonne un de ces
quatre. Pour beaucoup, c'est peut-être lui que les gens ont peut-être plus vu, sinon...
J'entends parler beaucoup de Wild at Heart, moins populaire, là, moins popularisé, mais qui est un de ses très bons.
Puis il était vraiment film culte, là. Je pense qu'il avait gagné un prix à Cannes. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était la Palme d'Or, je ne me rappelle pas, mais il me semble qu'il avait gagné un prix à Cannes avec ce film-là. Sinon, bien évidemment, peut-être le plus mal aimé de ses films, de sa filmographie, son fameux Dune.
Sa
tentative de faire du studio de grand cinéma.
Ouais. Ah, ben, en fait, j'ai vu ça, là. C'est le seul que j'ai vu, fait que c'est le moins représentatif.
Oui, c'est ça, effectivement.
Mais Blue Velvet, ça se peut-tu?
Oui, Blue Velvet, oui. Je pense peut-être pour lui son plus populaire, effectivement.
Ouais, puis je crois qu'il a comme mal, je me sens entre guillemets, là, je sais pas si son impression s'est fait, mais lui a mal fini avec Inland Empire, qui était vraiment peu apprécié. Là.
Ouais. Non, c'est
mais c'est un personnage énigmatique, là. Lui qui répondait, il haïssait ça, et je le comprends, c'est que déjà, il fait des films plus étranges, puis un peu plus insaisissables, puis il détestait se faire poser des questions, de « ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, puis peux-tu nous expliquer ça, puis tout », puis il était comme « non ». Pose-moi d'autres questions, mais c'est ça.
Mais
non.
Je vois qu'il y a un succès populaire, par exemple, qu'on a moins tendance à l'associer parce qu'il a fait un peu de télévision.
Okay.
Mais le peu qu'il a fait, il a fait une série quand même assez marquante début des années 90, Twin Peaks, ouais, effectivement, qui tenait de son imaginaire.
Ouais, c'est sûr que j'aime
mais,
ça.
Ben, j'avais écouté, j'avoue, mais à un moment donné. Si c'était très intriguant le premier épisode, plus ça allait, plus on tombait dans ces manies de onérique, ésotérique et de plus rien comprendre. Donc, malheureusement, j'avais décroché un peu. Autre quand même grand décès aussi en France, c'est arrivé il y a quelques jours, Bertrand Blier, un réalisateur très connu plus des années 70-80, mais intimement lié avec Gérard Depardieu parce que c'est lui qui l'a fait découvrir dans le film Les Valseuses de 74. Il a eu d'autres gros succès avec lui, dont Buffet froid et Tenue de soirée. Donc, un autre cinéaste polémiste qui est même très irrévérencieux. Ses films ont peut-être moins bien vieilli aujourd'hui.
Un homme de notre temps.
Ouais, tout à fait. Donc, Miu Miu aussi était beaucoup dans ses films. Alors, quand même, pour les cinéphiles du cinéma français, c'est quand même un grand morceau qui a quitté aussi, qui a marqué évidemment la culture populaire française. Sinon, annonce d'un projet, je pense qu'il pourrait peut-être être assez intéressant. En tout cas, pour ceux qui aiment la littérature, un best-seller va être porté à l'écran français. Le roman « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin, qui date de quelques années, mais qui est rendu comme à 2-3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est Jean-Pierre Genet qui va porter le film à l'écran quand même. Donc, un nom assez prestigieux derrière ça. Et c'est vraiment un phénomène littéraire. Là, ici au Québec aussi, là, c'est une des autrices qui vend beaucoup, donc à suivre.
Puis est-ce que c'est juste, mettons, achat des droits ou on confirme qu'on va en tournage bientôt?
Oui, non, je pense que ça tourne au printemps pour une sortie 2000, peut-être fin 2025 en France, je ne sais pas, sinon 2026 au Québec. Puis j'ai oublié de noter la prémisse, je voulais aller faire, donc je peux pas vous raconter c'est quoi l'histoire.
C'est pas grave.
Alors donc,
oui, je me trompe. Puis là, peut-être que, tu sais, j'ai pas fait mes recherches, fait que je me demande si toi tu l'as fait. Est-ce que Robert Eggers a annoncé son prochain projet?
Oui.
J'ai vu ça aller.
Ben oui, il était dans mes notes. Je suis comme allé trop vite, mais oui, tu as bien fait de me le renvoyer.
Oui, puis c'est une sorte de clin d'œil peut-être à l'insuccès de Wolfman qui est sorti le week-end dernier. Film de loup-garou qui a un peu déçu les attentes des gens et peut-être les attentes du box-office également. Fait que lui qui sort tout droit d'un film de vampire et qui est en nomination pour 4 Oscars, je pense.
Oui.
Annoncer que son prochain projet serait un film de loup-garou, finalement.
Ben oui.
Du mid-century, c'est ça?
Oui, on parle à l'époque médiévale, donc les années 1200, 1300, je ne me rappelle plus
très
trop exactement. ouais, donc le titre Werewolf, d'ailleurs. Et il va sortir en décembre 2026.
OK, c'est rendu un fan de films de Noël.
Ben, pour moi, c'est comme rendu le counter-programming de...
Ben, ça va faire comme David Gordon Green. Ça va être ça jusqu'à temps qu'il y ait un insuccès, puis là, on va le retasser, mais on dit, bon, on fait d'autres choses.
Fait qu'il faut croire que la thématique loup-garou est vraiment dans les airs.
Oui, écoute, moi, je viens d'apprendre toutes des nouvelles sur la magie, là. Ça n'a vraiment pas rapport au cinéma, mais tu sais, le côté sorcière, magie, là, que c'est encore actuel. Là. J'ai appris c'est quoi de l'eau de lune, puis toutes ces affaires-là. Là, puis c'est comme, je sais pas, dans l'air du temps, ça revient. Là, cette espèce de retour à la nature et d'un peu la forme de magie blanche, là, sans faire des croix au sol, puis des incantations.
Ben,
mais
les
juste
réseaux
comme
sociaux ont reparti, ont redonné gain à tout ça, comme le tarot et tous ces arts divinatoires-là. Donc oui, à suivre, mais il a aussi annoncé quand même, après ça, l'écriture de son peut-être prochain film, après Werewolf quand même.
Okay.
Et ça, je pense que ça va peut-être en surprendre plusieurs. Alors,
rom-com?
Non, il demeure dans le fantastique, mais il va faire une suite à un film culte qui avait été un échec commercial en 1986, Labyrinthe de Jim Henson avec David Bowie.
C'est vrai que pour ma génération, ben moi je suis né, j'avais 0 ans quand c'est sorti, mais toi, t'étais trop vieux 10 ans?
J'avais 10 ans, non, ça aurait été dans l'âge, mais honnêtement, je ne l'ai jamais vu.
OK, bon, moi j'ai vu ça plein de fois parce que peut-être ce qui est arrivé, c'est que quand les droits télé sont arrivés et que c'est mis à toujours jouer, ben là, je devais avoir 6-7 ans. Je l'ai vu beaucoup. C'était captivant, ce film-là. Les escaliers à l'envers, le pénis moulé, tout. Mais mais je savais pas que c'était un insuccès. Tu sais, parce que moi, j'ai comme grandi avec ce film-là. Fait que je savais pas que ça avait été un flop.
Ben oui, tout à fait. C'était c'était suite à The Dark Crystal que Jim Henson avait réalisé ça et puis produit par George Lucas quand même. Faut le dire. Donc oui, ça n'avait pas trouvé son public, mais justement en cassette VHS et après ça à la télévision.
Qui nous a fait connaître, comment ça s'appelle?
Jennifer Connelly.
Qui
débutait, premier rôle pour elle. Ouais. Donc pourquoi pas? J'imagine que ça doit être un fan du film.
Mais grosse question de... Oui, sur papier, c'est intéressant, mais là, tu fais quoi? Ça veut dire que là, il va tomber dans les mopettes, là, dans les marionnettes, là, c'est pas les mopettes,
parce que c'est
la gang, mais du marionnettisme.
Oui, la compagnie Henson est derrière la production, donc c'est Lisa Henson, qui est la fille de Jim, qui est productrice, qui va coproduire le film.
Puis, je sais pas, tu prends-tu une autre star du pop pour refaire ça? Tu t'en vas complètement ailleurs? Comment il s'appelait, lui, le prince des gobelins?
Le roi des gobelins. Écoute, il y a plein de possibilités.
Pharrell Williams, il est dans tout.
Ce qui est drôle, c'est quand même Chris Columbus, maintenant, qui est comme rendu son producteur.
Oui, j'ai vu.
Oui, c'est ça, avec Nosferatu, d'ailleurs, Columbus était producteur. Et il va produire Werewolf et aussi cette suite-là de Labyrinthe.
OK, bon.
Donc, ils sont rendus buddy-buddy.
Oui, puis je pensais que Chris Columbus, à cause de son CV, je croyais qu'il était... très vieux, je dis ça poliment, je pensais que c'était quelqu'un qui était dans la 70aine avancée.
Non,
tout. Non, parce que quand il a fait « Maman, j'ai raté l'avion », il était très jeune. Là. Il doit avoir mi-vingtaine, 26.
Un peu plus vieux que ça.
Fin vingtaine.
Peut-être fin vingtaine, début trentaine. Parce que lui a commencé... le premier scénario qu'il a vendu, c'était « Gremlins ».
okay.
en 84. Puis il a travaillé un peu avec Spielberg, il a fait les Goonies aussi. Son premier film, Adventures in Babysitting, qui était en 1986.
Ah, ouais.
Fait que là, il était peut-être justement mi-vingtaine. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'il est dans peut-être début soixantaine ou mi-soixantaine. D'un peu ouais, plus jeune que la
génération.
Que Spielberg
et
Lucas, là, qui eux travaillaient déjà depuis une dizaine d'années. Là. Fait que, mais là, c'est ça. Là, maintenant, ça, je suis allé lire un super bon article, je pense, dans Hollywood Reporter ou Variety sur Chris Columbus. C'est comme un peu renouvelé parce qu'il a fait beaucoup de grands succès populaires. Mais depuis une dizaine d'années, avec sa fille, il a parti une petite boîte de production. Puis il promouvait beaucoup de cinéastes indépendants, de jeunes réalisateurs. Donc, il est beaucoup dans cette mouvance-là maintenant, okay. aujourd'hui. Là.
Plutôt que ouais. juste les gros blockbusters.
Oui,
tout.
Tout à fait.
Ouais, cool.
Donc, allons-y avec les sorties parce que...
Ah, mais tu veux pas faire
ah oui, bande-annonce. Oui, ben oui, quoi, là, je suis complètement...
On s'en sortira pas, là. On va essayer
d'être... Je suis le décalage encore, excusez-moi.
Oui, c'est ça.
Oui, ben oui, c'était hier. On a dévoilé donc les nommés aux Oscars.
Ouais, écoute, la grande surprise, je sais pas si à chaque année il y a des grandes surprises comme ça, mais c'est que Emilia Pérez, un film français qui se passe au Mexique, a 13 nominations, il est partout.
Mm-hmm.
Ça choque les internets.
Ouais. Ben, c'est un film qui semble créer beaucoup de réactions, qui est très polarisant, fait que je pense soit tu adores ou tu détestes, de mm-hmm. ce que je comprends.
Exact.
En même temps, je ne sais pas s'il y a un peu de trolling là-dedans, là, puis c'est quand même un film qui aborde un sujet délicat de transgenre. Et
oui,
de tout,
c'est
fait
ça.
Que je sais pas.
Fait que, bref, on va savoir si ça va être un énorme succès qui va passer à la gratte puis gagner 7 Oscars,
en
ou
même temps,
si
c'est
ça
pas
va
une...
être la grosse échec.
C'est pas une surprise, parce qu'il a déjà raflé plusieurs Golden Globes, en mm-hmm. nomination pour plusieurs BAFTA. Là, je sais pas s'il rentre dans la catégorie des Césars, on verra bien.
Ouais, c'est pas encore...
Tout
des... Non,
nominations... ça s'en vient.
Mais je peux pas croire qu'il serait pas nommé partout à ce moment-là.
C'est
une production française.
Ouais, c'est ça.
Je...
Mais vu que c'est un film de plateforme, je connais pas leur.
Mais.
On verra bien.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est que je crois que. C'est ça. Si mon souvenir est bon, c'est que Netflix a acheté pour la distribution, mais c'est pas
ouais,
les
producteurs.
C'est pas
les producteurs.
Fait,
en fait. Fait que bref, à suivre. Donc, oui, fait que c'est ça. Alors, normalement, il devrait.
Suivi par Brutalist, qui, oui. a aussi, qui a 10 nominations, et Wicked aussi, qui en a également 10. Wicked, que je trouve ça drôle parce qu'il y a... c'est quoi ça? C'est sorti en novembre. Il semble encore au mois d'octobre. Tout le monde n'était pas sûr. Ça va-tu être bon? Ça va-tu être un navet? Je pense qu'aux États-Unis, il était très attendu puisque le musical a un grand succès et tout. Mais
tout le monde retenait leur souffle, surtout Hollywood, là, parce qu'il y avait beaucoup d'argent investi avec une suite qui s'en vient, avec la deuxième partie.
Uh-huh.
Donc, Universal jouait très gros là-dessus. Mais Brutalist, c'est comme une surprise aussi parce que je pense que personne n'attendait ce film-là dans le décor.
Non, c'est ça, parce que c'est un film indépendant,
ouais,
finalement.
C'est, ça,
là. C'est pas sûr qu'on attend pendant plusieurs mois. Là. Écoute, j'ai pas tout noté en nombre, mais on voit beaucoup de Complete Unknown, Conclave.
Ouais.
Il y a Substance, évidemment, qui est là un peu partout. Dune.
Un peu déçu,
un peu
quand
déçu,
même.
Quoi,
ouais.
4 nominations.
4 ou 5, là,
mais n'a pas...
pas
celle de meilleure réalisation pour non. Denis Villeneuve, et qui est dans meilleur film, direction artistique, son
effet visuel.
Effet visuel
ouais,
il peut même pas être en musique parce qu'Hans Zimmer, il y a une trop grande proportion des chansons qui étaient déjà dans le premier, donc il n'y a pas assez de nouvelles chansons originales. Fait que, ouais, c'est ça. Un petit peu tannant pour Denis.
Mm-hmm.
Alors qu'au premier, qui avait eu plein de nominations, on disait, ah, tu sais, on sentait que c'était comme, ah, l'œuvre est inachevée, tu sais, on te récompensera à la fin. Puis là, quand c'est à la fin, c'est comme, ah, oh, ben non. Fait que là, ça ramène au fameux débat de devrais-tu, est-ce que c'est une bonne chose de sortir tes films en mars puis en avril, ou tu devrais tout le temps tout garder en tant que distributeur pour octobre, novembre, puis charger le calendrier encore plus pour que tu sois dans la tête des votants. Mais là, à un moment donné, sinon, le cinéma, ça peut pas être des flops à l'année longue puis
non,
arriver avec des valeurs plus sûres. Puis en même temps, il n'y a aucune valeur sûre. On peut en parler pour 5 septembre, par exemple, September 5, qui semblait être
un
concurrent,
buzz,
un gros nom à la Conclave, de genre, OK, on veut tout aller chercher. Puis finalement, ils ont une nomination, je pense. Meilleur scénario original. Puis je vous parlerai du film tantôt que je l'ai vu parce qu'il vient d'arriver finalement plus large en région. Mais tu sais, ça enlève rien à la qualité du film puis au plaisir que j'ai eu à le regarder. Mais là, lui, il va un petit peu se mordre les doigts parce qu'ils l'ont retenu jusqu'à la fin d'année. Puis au lieu de, puis là, ils se retrouvent en mode de, ben là, c'est les Oscars, voulez-vous voir les films en nomination? Ah ben, celui-là, tu sais, vous pouvez le laisser tomber, il y a juste une nomination, fait que c'est un peu perdant. Pour ça, voulais-tu ajouter d'autres choses? Ben, ah, ben oui, Anora aussi, que oui. Son lot de nominations, vas-y.
Tout à fait. Ben moi, j'allais juste voir peut-être les plus grandes surprises. Côté actrice, il y a Fernanda Torres, donc pour le film...
Mais elle a gagné le Golden Globe.
Fait. Oui, mais Nicole Kidman était quand même très pressentie pour être en nomination, donc elle n'est pas là. Donc j'ai l'impression que c'est Torres qui a pris un peu sa place, parce que dans parmi les autres nominés, ils étaient aussi tous présentes.
Fait que, mais moi, j'ai l'impression que ça se joue entre, à ce moment-là, entre Torres et Demi Moore.
Oui, mais je pense que ça ne joue même pas. Je pense,
c'est sûr que c'est Demi Moore?
Moi, je pense que c'est Demi Moore.
OK.
Assuré. Réalisatrice, on a quand même Coralie Farja qui est en nomination. C'est que pour les femmes, c'est pas toujours facile. Donc, elle a pris peut-être la place de Denis Villeneuve.
Moi, je trouve pas que c'est... Mais... elle qui a pas rapport, je trouve que c'est James Mangold qui a pas rapport. Je trouve que A Complete Unknown, très sympathique, biopic sur Bob Dylan et tout, mais
ça se démarque pas.
Non, c'est ça, vraiment rien de complètement incroyable. Puis tu sais, Denis Villeneuve, c'est sûr, je peux pas mettre complètement de côté la partisanerie du fait qu'il est québécois, qu'il s'est rendu là.
Ouais.
Mais si vous regardez un peu les échos sur Internet, c'est tout l'univers de la science-fiction et du film de genre sont comme... Non, non, il est vraiment bon, puis c'est un vraiment bon film, puis ça n'a pas rapport qu'il soit là.
Ben, je suis un peu d'accord, parce que Coralie Farja, quand même, son film a une vision artistique, mm-hmm. C'est travaillé, c'est vraiment son identité, fait que je suis d'accord. Ben, moi, je suis content qu'elle soit en nomination, d'ailleurs. Mais effectivement, James Mangold aurait peut-être celui qui aurait pu sauter. Au niveau de la trame sonore, quand même, les gagnants de Golden Globe sont absents. Trent Reznor et Atticus Ross, pas en nomination pour Challengers. Fait que ça ouvre quand même grand la porte pour autre chose. Et, ben, quand même, soulignons l'incroyable parcours qui continue pour Flo, le long métrage d'animation, qui est une double nomination. Donc, meilleur métrage d'animation et film étranger.
C'est ça.
Ça positionne quand même sérieusement pour un prix, je pense.
Honnêtement, la course au meilleur film international est quand même très excitante. Ouais. Parce qu'il y a Emilia Pérez qui est dans la course.
Double animation donc pour lui, parce que film étranger et film aussi.
Oui, c'est ça. Puis il est partout, mais il y a ça. Moi, je trouve qu'il y avait un bon buzz déjà sur Je suis toujours là, qu'on parlera dans les prochaines semaines. Donc, tu as nommé son nom qui est là comme comédienne, Torres.
Fernanda Torres, Walter Salles, qui est le réalisateur. Ouais.
C'est ça. Fait que. Il y a des très bons films dans l'international.
Un qui est à l'affiche présentement.
C'est Les graines du figuier sauvage, qui représente l'Allemagne. Et l'autre, c'est...
Ton coup de cœur.
Oui, c'est ça, un de mes films préférés de l'année. Le plus troublant, La jeune femme à l'aiguille, qui représente... j'ai oublié la...
C'est pas le Danemark?
Le Danemark, oui, merci. Je pense pas que c'est lui qui a le plus gros buzz avec, mais c'est quand même très flatteur d'être là et tout. Ouais. Mais il y a des années où on dirait que c'est des sure shots. Tout a l'air d'être pas mal. On en reparlera plus tard de nos prédictions. Là. Pas mal sûr que ça va être Pérez, le fait qu'il y a autant de nominations. Mais il pourrait avoir... Comment dire? Ça pourrait être un des autres qui gagne, puis ce serait pas choquant.
Non, c'est tout à fait. C'est très relevé là, comme compétition cette année.
Mais Flo se place bien pour le meilleur film d'animation. Ça, c'est certain, puisqu'il le gagne dans presque tous les compétitions et les festivals. Et c'est le fun. Il y a des années que c'est genre 5 films américains de DreamWorks puis de Pixar, là. Fait que là, il y a quand même Inside Out 2, mais je pense pas que c'est lui le majoritaire du fait que c'est une suite et tout. Mémoire d'un escargot aussi. Il a été moins vu par les votants, mais il a gagné. C'était pas lui d'ailleurs qui avait gagné à Annecy, justement. Ouais.
Non, c'est près de deux années de suite que ce n'est pas un film américain qui remporte l'animation. Ce serait
C'était
Miyazaki.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Donc, ça va choquer l'industrie américaine.
Puis l'autre de mémoire, c'est Le robot sauvage aussi, qui a été très, très apprécié. Oui. Mais c'est surtout Chris Sanders est comme... nommé tout le temps, mais je pense qu'il n'a jamais gagné parce qu'il arrivait souvent avec les How to Train Your Dragon, puis il se faisait coiffer par un Pixar. Fait que je pense qu'il est à sa quatrième nomination. Il y a
Wallace and Gromit aussi, quand même. Faut jamais sous-estimer qu'il est comme, je pense, à 99 sur Rotten Tomatoes.
Ils disent
que c'est le meilleur Wallace and Gromit, fait que j'ai pas vu non plus. Je vais juste terminer brièvement en notant les 10 films donc en nomination, si jamais vous voulez compléter votre liste donc, il y a Anora, évidemment, Brutalist, Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I'm Still Here, qui n'a pas encore pris l'affiche ici, Nicole Boys non plus.
Ouais, ça c'est toujours, comme à chaque année l'espèce de film qui sort de nulle part puis qui n'est pas vraiment une grosse sortie, en tout cas, du moins pas au Québec.
Non, puis pourtant, c'est un film que les critiques sont dithyrambiques, adapté d'un best-seller qui avait gagné, je pense, c'était le prix Pulitzer ou Booker, en tout cas, un prix très prestigieux littéraire, The Substance et. J'arrive pas à lire mon dernier, c'est con. Wicked.
Ah, ben oui, Wicked. Ouais, c'est ça, j'étais en ordre alphabétique. Ouais, il y a ça. Sing Sing aussi qui est dans les déceptions, c'est-à-dire meilleur acteur. Scénario
adaptation, ouais. Je suis même étonné qu'il ne soit pas dans les films.
Oui, parce que mais tu vois, là aussi, je pense qu'il était un peu victime d'être sorti plus au mois d'août, septembre. Là, je me souviens plus exactement. Là, c'était à la fin de l'été. Puis, grande critique, mais il n'a pas vraiment rencontré son public. Puis là, par après, c'est vrai que l'acteur est vraiment bon, mais on dirait qu'il n'est pas dans le meilleur film, il n'est pas dans rien d'autre.
Puis, honnêtement, bien que j'ai bien aimé Wicked, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour là, pour ce film-là. Parce que c'est le meilleur film. En nomination, je pense pas.
C'est ça.
C'était très bon, très efficace, mais tu prends ça puis Sing Sing, on est comme complètement ailleurs. Enfin, bref.
Mais tu sais, en même temps, si Wicked gagne meilleur film, ça va peut-être tellement redonner de popularité aux Oscars pour du monde qui va être peut-être dans juste une forme de bandwagon. Là, mais je sais que le prix n'est pas décidé pour la résultante de ce que ça va donner. Là, c'est juste après le monde vote pour ce qu'est leur film. Bref. Mais s'ils touchent autant le public, est-ce que les gens de 2000 votants, eux aussi, vont être touchés par « Ah, Wicked, c'est vraiment bon. »
Ben, c'est la question que je me pose parce que si on parle de la nouveauté qui prend l'affiche, lui qui a un très, très bon buzz, c'est pas un film typique d'Oscar.
Le brutaliste?
The Brutalist.
Ben, ce que ça peut rappeler, c'est peut-être Il danse avec les loups, là, d'une certaine façon. Là, mais Il danse avec les loups, c'est vrai que
c'était très sentimental.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Je pensais juste aux 3 heures.
C'est ça. Mais... Moi, je parle pas de durée, mais vraiment, c'est un film très intellectuel, The Brutalist. Et on sait parfois que les votants des Oscars aiment plus voter avec les émotions, si on se fie à Coda, justement.
Hey là là.
Et l'autre, c'était quoi? The Green Book aussi.
Ouais, mais c'est comme nommer les pires années. Là,
non, mais écoute, peut-être qu'on va avoir ce genre de surprise-là. Puis,
Mais c'est ça, c'est parce que après aussi, c'est un vote où, je pense qu'on va redire ça toutes les semaines, là, mais tu sais, les votants, je pense qu'ils mettent des positions, puis selon tes positions, t'as un score. Alors, tu dis pas juste lequel tu mets en premier, fait que. T'sais, des Anora, des Brutalistes et Substance, puis même Dune, peuvent diviser le vote, un peu comme des élections. Là, t'sais, sont plus polarisants, c'est des films de genre, ils vont pas faire l'unanimité. Puis là, c'est là que des Wicked, puis des Conclave, puis des Complete Unknown
poussent
parce qu'ils sont des un peu people pleaser à leur façon. T'sais.
Donc, allons-y avec les sorties.
Une seule bande-annonce.
Oui, c'est vrai.
Grosse bande-annonce au Québec, même, film très attendu. Deux femmes en or de Chloé Robichaud, qui met en vedette Karine Gontier-Heinemann et Laurence Leboeuf. On avait le droit à un petit teaser cet été d'à peu près une minute. Là, c'est la bande-annonce de 2 minutes.
Et il y a de la vedette au pouce carré.
Parce que, dans le fond, c'est une réadaptation de la pièce de théâtre de Catherine Léger qui, elle, est inspirée du film de André Forcier et Claude Fournier. Donc, ces deux femmes, on semble l'avoir un petit peu modernisé, mais pas à 100%. Là. On n'a pas l'air d'être exactement en 2025 dedans. Ça a l'air d'être entre les deux. Ils parlent de poser le cadre puis des choses comme ça. Là. Fait que... On doit être peut-être plus dans les années 90, là, en tout cas. Puis, fait que c'est ces femmes-là qui sont dans la maison et qui s'ennuient et qui cherchent leur féminité puis leur liberté en tant qu'humain, en tant que femme, si on veut. Et vont s'émanciper dans la sexualité. Grosso modo, ça semble être ça. Fait qu'ils passent beaucoup d'hommes. Autant dans le premier film de Fournier, justement, il y avait, entre autres, Yvon Deschamps et tout. Ben là, c'est pas...
Je pense que c'est Fabien Cloutier qui reprend le rôle de Deschamps.
Ah bon, OK, tu vois, je savais pas. Mais là, on voit quand même quelques humoristes qui n'est pas si étonnant, puisque la conjointe de Chloé Robichaud, c'est Catherine Levac, fait qu'elle doit les connaître, justement, les Sam Breton et Arnaud Soli qu'on voit. Claude Legault aussi qui arrive en surprise. Il a fallu que je le recule. Je ne l'ai pas reconnu, mais j'ai reconnu sa voix. Puis, Fabien Cloutier. Puis, je ne sais pas si j'en nommais d'autres. Là. J'oublie leur nom, mais ceux qui font leur conjoint. Là.
Ouais.
Frédéric Abelard, lui qui est dans Complètement lycée. Là, le noir très beau et costaud, là, qui est dans le poteau d'hydro et ces choses-là.
Sophie Nélis aussi.
Sophie Nélis, Juliette Gariépy.
Ouais. Fait quand même.
Jean-Sébastien Girard.
Oui, on voit un petit caméo.
Très hâte de voir, mais ça tombe pas pour rien. C'est parce que dans 2 jours, samedi le 25 janvier, il est présenté à Sundance. le
film. Oui, ils sont là présentement.
Bonne chance à toute l'équipe. Mais ouais, au Québec, ça arrive juste le 30 mai. Faudra être patient, mais j'ai très, très hâte de voir
Écoute,
ça.
Écoute, je pense que ça va être un très grand succès. Et si je ne me trompe pas, Catherine Léger, c'était aussi elle qui était derrière la...
Ligne de fuite.
Et le karaoké semble être très important dans sa vie parce qu'il y a aussi une scène de karaoké.
Ah, j'ai pas remarqué dans mon annonce.
Ouais,
okay.
C'est ça. Où il chante provocante.
Ben non, mais ça, c'est dans Ligne de fuite.
Ah ben, la reprendre dans...
Je me souviens que c'est les gars qui chantent. Mais dans le fond, après que le personnage des filles a chanté, il y a des gars dans le bar, puis je pense que les gars chantent provocant.
Mais eux autres chantaient la toune de Gabriel et Trois Maisons.
Ouais.
Mais là, dans la bande-annonce, ils chantent, les filles chantent provocantes.
OK. Ouais. Bon, ça fait du sens. Mais dans Ligne de fuite, quand ils ont fini de parler, puis que Michael Gouin croise la fille, là, les gars, dont le...
C'était eux qui chantaient ça. Ouais, mais c'était plus sur le karaoké en général coudonc. Que provocante.
Puis là, ben, je vais pas faire un petit baveux, mais nous, en tout cas, on va le voir en exclusivité. J'ai très, très hâte.
C'est vrai, oui.
Beaucoup d'avance, fait que... Bref, je sais pas, on va sûrement pouvoir confirmer que c'est excellent, j'espère. Bon, les nouveautés de la semaine, ça fera...
Alors, The Brutalist de Brady Corbet.
Bon, un film événement, il n'y en a pas toujours, mais cette année, il y a ça. Avec Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, un rôle pour une première partie du film pour Alessandro Nivola, qui brille beaucoup plus que dans Kraven the Hunter. Joe Alwyn, complètement désagréable dans ce film-là.
Il est toujours désagréable, là, je pense.
Ben, il joue souvent des petits cocky boys, là, des petits blancs becs fendants. Là. Très, très Donald Trumpesque dans ce film-là. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un architecte juif d'origine hongroise qui arrive aux États-Unis pour venir refaire sa vie en espérant pouvoir faire venir sa famille plus tard. Puis il va se retrouver à travailler sur un immense projet d'un riche, un peu mystérieux, joué par Guy Pearce. Puis il va être un peu sous le joug de ses mœurs, ses états de crise et on arrête le projet dans une espèce de truc démesuré.
Avec qui est une espèce de centre communautaire.
Ouais, qu'il y a tout dedans, là.
Dédié à sa mère.
C'est ça.
Donc, qui est décédé, puis lui veut comme redonner à la communauté dans un projet pharanoesque.
Voilà. Et ben, le titre, le brutaliste, fait référence au style d'architecture qu'il utilise, là, qui est très des grosses colonnes de béton et de pierre et des lignes droites. Et ça dans un grand film de 3h35 et qui inclut un entracte de 15 minutes.
Qui est excessivement rare de nos jours.
Oui, c'est vrai. Mais très à propos. Moi, ça m'a vraiment aidé à redonner une swing à la deuxième partie qui change un petit peu en ton quand même. Mon bémol, on donne un peu nos appréciations, mais pas des étoiles, des choses comme ça. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, mais que... je pense qu'il faut... Le film arrive avec un trop grand hype, le vent dans les voiles. Il vient de gagner tout au Golden Globe. Ben, 3 gros prix, là, meilleur réalisateur, acteur, puis film dramatique. 10 nominations aux Oscars. Fait que là, on est comme, hey, c'est-tu le cinéma avec un grand C, le nouveau Citizen Kane, le Tassez-vous, ça, c'est le film. C'est... Non, faut se calmer. Là. Oui, c'est un gros film. Il y a un entracte. Il y a Brody qui est de retour dans une grande performance de juif étranger. Mais après ça, il y en a qui vont apprécier. Il y a des côtés forts, des côtés un peu plus faibles. Je pense pas que la durée est un problème. Je crois qu'il a mérité sa durée, le film. Après ça, tu sais, si ça vous emmerde, n'allez pas le voir, là. Mais genre, si vous avez libéré ce temps-là à votre horaire, moi, j'ai vraiment apprécié ce film-là plus que d'autres films de 95 minutes, là, tu sais. C'est pas ça le problème, tu sais.
Non, tout à fait. Moi, au contraire, j'ai apprécié. C'est très étoffé, mais ça fait que c'est un film qui est assez lent. La réalisation, elle est vraiment intéressante, d'autant plus qu'elle est dotée d'un budget de 10 millions, là, quand même,
oui,
pour un film historique sur ce sujet-là. C'est vraiment... Tout l'argent est à l'écran. Mais c'est quand même une réalisation qui est assez froide. Fait que c'est pas un personnage qu'on...
Non, c'est un peu anti-héros, là.
Ouais, c'est ça. On n'éprouve pas de l'empathie nécessairement pour lui, tout ce qui se passe. Fait qu'on est comme un peu observateur de tout ça. Un peu comme une œuvre qui se construit. Je vais être dans l'allégorie. Mais c'est un film, c'est ça. Fait que je pense pour ça que c'est un film qui s'adresse plus aux cinéphiles plus purs et durs qui aiment vraiment le cinéma comme expérience que d'aller chercher un divertissement. Vous risquez peut-être d'être un peu déçu à ce
niveau-là. Oui, c'est pas un blockbuster. Hein? Puis... c'est ça, tu parlais de l'image. Oui, c'est très gris, c'est très froid. C'est caméra à l'épaule tout le temps, fait qu'une image très mouvementée. mais on dirait que ça conduit bien le film. Je pense que si ça avait été un film avec des plans fixes puis des plans larges, découpé au couteau à toutes les 3 secondes, ça aurait été épuisant. Là. Fait que là, c'est plus des genres de longues prises, là, le temps que les gens discutent dans des maisons puis des manoirs pas de bon sens. Puis...
Ben, c'est un film vraiment d'écriture à dialogue. D'ailleurs, les comédiens sont tous très bons. Jane Brody, écoute, je pense qu'on peut lui donner tout de suite l'Oscar. Là. C'est vraiment un retour en force incroyable.
Il y a une petite polémique là, sur son accent étranger qui a été corrigé par intelligence artificielle. Et là, tu sais, tout le milieu du cinéma, je sais pas c'est quoi mon opinion là-dessus exactement, mais tu es allergique à l'intelligence artificielle. Ouais. Fait que...
Ben, de ce qu'on sait, c'est que en fait, il y a des parties en voix off de narration où son personnage et celui de Felicity Jones qui joue sa femme s'échangent des lettres, où c'est vraiment lu donc en hongrois. Et juste pour essayer de améliorer un petit peu plus les accents, donc ça a été utilisé pour ça.
Ah, c'est ça. Je pensais que c'était tout le temps.
Non.
Okay. Donc, c'est pas quand ils parlent en anglais, c'est quand ils parlent en hongrois.
C'est quand ils vont lire ces lettres-là. Donc, l'émotion est là, l'intention est là. C'est juste pour... ce qu'ils voulaient vraiment, c'est que les personnes d'Hongrie ne décèlent pas d'accent comme tel. Là. Fait que, bon, est-ce que c'était nécessaire ou pas rendu là? Mais oui, c'est sûr que tout ce qui touche à ce sujet-là, maintenant, c'est... Mais je pense pas que ça va créer assez de controverses pour enlever l'Oscar pour Adrian Brody. J'ai quelques fun facts quand même assez intéressants.
Oui.
En fait, Billy Corbett a débuté comme acteur, ce que je savais pas.
Ah, OK.
Au milieu des années 2000, il avait joué dans quelques films. C'est seulement son troisième film comme réalisateur. Fait qu'il faut saluer qu'il a vraiment un talent, puis une audace quand même, parce que de faire un film de 3h30 sur un architecte émigré...
Ouais, la mise en marché.
C'est comme... Fait que bravo. C'est
A24 qui produit? Je sais qu'ils distribuent aux États-Unis.
Non, ils distribuent. Ça a été vraiment financé indépendamment par une petite boîte de New Yorkaise.
Par Chris Columbus.
Et puis, en fait, le film devait débuter le tournage en 2020. Il avait été arrêté à cause de la COVID, mais on avait un tout autre casting l'origine.
Ouais, Ryan Reynolds.
Non, quand même pas. On avait Joel Edgerton à la place de Adrian Brody.
OK, ouais.
On avait Marion Cotillard au lieu de Felicity Jones.
OK.
Et on avait Sebastian Stan au lieu de Joe Alwyn, quand même.
Ah ouais, OK.
Ouais.
Eh bien, c'est drôle en plus que je dise que son personnage ressemble un peu à Trump alors que Stan a dû être occupé à aller faire The Apprentice.
Fait que peut-être que l'autre aurait pu le faire à sa place. Puis donc, finalement, il y a tellement de reports dans les tournages et dans les dates que là, finalement, ben, les autres ont tous eu d'autres obligations. Mais Joel Edgerton, je ne suis pas certain. Je pense que Brody rajoute une touche.
Le problème de Edgerton, c'est peut-être sa force et sa faiblesse, c'est qu'il oscille beaucoup entre le blockbuster et le film d'auteur, mais il y a une shape de film d'action, par contre.
Ouais, c'est ça.
Il est extrêmement en forme, il est musclé, il s'occupe de lui, puis tout. Fait qu'après, voir les scènes en bédaine avec son six-pack, ça n'aurait pas marché. Peut-être qu'il aurait subi une transformation, il aurait peut-être accepté de dangereusement perdre 25 livres, comme ils font souvent. Là.
Mais quand même, mais aussi, je ne suis pas trop...
Mais il n'a pas la même gueule. Ouais,
non, c'est ça. Brody amène avec son visage élancé, brisé un peu, là, tu sens le poids quand même.
C'est ça. Il y a même un enjeu avec son nez cassé au début, puis tout. Puis en tout cas, je veux pas que ça revienne contre moi, mais je trouve ça drôle qu'il ait un très grand nez au milieu de son visage, un visage assez long, et que finalement, il fait du brutalisme, il fait des grandes formes longues, massives, qui sont là dans dans le décor, tu sais. Fait que, je sais pas, c'est drôle un peu. Fait que, t'avais-tu d'autres fun facts?
Non,
c'est ça. Ben, je veux dire, brutaliste, c'est définitivement le film à voir si vous êtes dans la course aux Oscars, vous voulez suivre qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça va être quand même dans les films qu'on va se souvenir de l'année 2024-25.
Ben, c'est un film... pour adulte, est-ce que je peux dire ça comme
ça? Oui, c'est un film pour cinéphile.
Pour vrai, c'est ça. C'est sérieux, mais c'est bien écrit, c'est bien joué. C'est
mais on est aux antipodes de Megalopolis, que je voulais comparer, qui était l'autre film. On parlait des loups-garous qui sont à la mode. Ben là, l'architecture, peut-être qu'on va se calmer. Mais on n'est vraiment pas là-dedans, dans ce côté philosophique, puis incompréhensible, puis folie de grandeur, parce que là, la différence, c'est que l'architecte travaille pour... cette personne-là un peu plus coco-banane, et non, tandis que dans le Megalopolis, il était lui-même, puis on n'est pas dans ce même genre de fresque du tout.
Je pense que si on pourrait faire une comparaison, on est quasiment dans l'esthétisme, dans le ton des deux premiers parrains, je trouve.
Ah, OK. Bon.
Très, parce qu'on a cette Coppola, saga-là. Oui, mais c'est un peu saga familiale. Avec lui qui essaie d'immigration et tout ça, donc de la libre entreprise, de trouver sa place comme immigrant. Puis...
Fumer des clopes non-stop.
Oui, tout à fait.
Seigneur.
Ça y va autant. Mais je pense que c'est un sujet très d'actualité aussi, parce que là, avec tout ce qui se passe évidemment au sud de la frontière, en même temps, des fois, c'est comme ça la vie. Je pense pas que, je sais pas qu'est-ce qui a influencé Brady Corbet dans l'écriture de ce scénario-là. Puis probablement, il devait tourner en 2020, fait que ça a été écrit déjà en 2016, 17, 18, dans ces années-là. Mais ça arrive à un moment quand même important où l'actualité rejoint un peu l'importance des thématiques du film, puis de l'importance des immigrants, puis comment ils ont influencé
leurs attitudes, leurs qualités.
Oui, ouais, c'est ça. Ils contribuent vraiment à l'essor d'une société. Fait que peut-être ce sujet-là va faire que ça va se faufiler.
Ben, en parlant d'immigration et
oui, de l'importance d'eux aussi. Donc, l'histoire de Suleiman de Boris Lojkin, là, on est dans le film français.
Oui, un thriller social ici. Je me souviens plus de la durée du film, mais justement, un rythme beaucoup plus
Je pense comme une 40,
nerveux et effréné. On va être à peu près pendant 48 heures dans la vie de Suleiman, qui est un jeune qui travaille en ce moment comme livreur Uber à vélo à Paris, puis qui, en même temps, prépare à être auditionné par l'OFPRA, qui est comme ça pour avoir sa demande d'asile à Paris. Fait qu'il est comme, il est réfugié en ce moment, mais il n'a pas ses papiers, il n'a pas rien.
C'est pour ça qu'il doit travailler en dessous de la table.
C'est ça. Fait que ce qu'on apprend, c'est que même il travaille pour Uber, mais il travaille pour quelqu'un d'autre qui a un compte Uber. Fait qu'il reçoit juste un maigre pourcentage des cotes, puis il faut qu'il court après son argent, puis il est gentil, puis bienveillant, mais personne ne donne la tâche facile. Fait qu'il y a trois objectifs. C'est ça, c'est gagner assez d'argent pour pouvoir manger, trouver un toit pour dormir. À chaque jour, il faut qu'il trouve les refuges, qu'il essaie de réserver une place et qu'il arrive à s'y rendre à temps. Puis préparer son fameux entretien, sa demande d'asile.
Et payer la personne qui
l'a. C'est ça, parce qu'on comprend, c'est que pour être sûr d'y aller, au lieu de compter sa vraie histoire, il va acheter un récit qui est plus troublant, qui a subi plus de crimes, d'abus, tu sais, qui serait un réfugié politique finalement, etc. Fait que là, il faut qu'il court après son argent pour ça un peu partout. Fait que c'est quand même assez épuisant, qui peut rappeler un peu le Uncut Gems, là, qui était le gros succès des frères Safdie il y a quelques années dans ce genre-là. Sauf que Uncut Gems, amené, devient comme complètement fou avec la séquestration, puis ça n'arrête jamais. Lui, il y a quelque chose de plus groundé là-dedans, là, de plus réel. C'est un film qui s'est distingué à Cannes. Il a gagné le prix Un Certain Regard, dans la catégorie Un Certain Regard, pardon. Meilleur acteur, je pense qu'il avait gagné le meilleur film dans cette catégorie-là aussi. Il y a le prix du cinéma européen en 2024 quand il est meilleur acteur. Il va assurément être au César partout quand les nominations vont sortir.
D'ailleurs, il a gagné au prix Lumière, qui est comme les Golden Globes.
Oui, c'est ça, des
journalistes.
Ouais. Fait que grosse sortie, très bon film. Qu'en as-tu pensé, toi, Pat?
Écoute, moi, j'ai adoré. Dans le ton, on est dans le cinéma direct, donc on dirait que c'est quasiment du cinéma tourné clandestinement. Là. Caméra à l'épaule, il y a beaucoup de scènes de vélo. D'ailleurs, le réalisateur et le gars de son suivaient Abou Sangaré en vélo eux-mêmes. Là. Puis j'aime cet aspect-là, course contre la montre. Donc, il y a un objectif à aller atteindre, puis s'il ne le fait pas, il va être dans la merde. Donc, ça amène vraiment ce côté-là de tension, parce que ce côté-là, thriller, c'est vraiment dû à ça. Il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de bandit, il n'est pas impliqué dans le crime, mais c'est juste qu'il y a tant de temps pour ramasser son argent.
Oui,
puis, c'est fascinant à voir. C'est super, très dynamique, très enlevant. Ça montre une réalité qu'on connaît moins. T'sais, on connaît qu'il y a des migrants, ben, peut-être moins ici, là, Québec-Montréal, mais on sait qu'en Europe, c'est des gros enjeux. Mais ça montre aussi comment ils se font exploiter aussi, puis à quel point c'est quand même un drame. Donc, ils vivent déjà quelque chose d'intense en quittant leur pays, puis ils sont exploités en arrivant ici. C'est quand même...
Le personnage de Suleiman, il est tellement gentil. Là.
Ouais.
On l'écoute, puis on est comme « Aidez-le, là!
Ouais, »
Il est juste tellement fin, là. Ouais. Il veut juste après...
Il veut juste travailler
là.
Vie,
oui, c'est ça. Là. Il vient pas pour l'American Dream, puis être sur TikTok, là, tu sais.
Fait que tout ça est filmé de manière très, très réaliste. Liste et ben écoute, la star, c'est Abou Sangaré, le comédien qui est un nom professionnel.
Ouais, c'est
en fait.
Un non-acteur.
On l'a déniché parce que Boris Logkin, le réalisateur, a rencontré plein de gens, de réfugiés, d'immigrés. Et finalement, il réalisait qu'une grande communauté qui travaillait dans le milieu du vélo, de la livraison, c'était des Guinéens. Ils l'ont mis en contact avec Abou Sangaré, qui n'est même pas à Paris, qui est à Amiens. En fait, c'est pas son histoire là, dont les gens vont peut-être confondre. Donc, il n'a jamais fait de livraison. Mais il avait quitté à 16 ans la Guinée comme mineur, essayé de trouver refuge. Finalement, ça a été extrêmement complexe d'avoir ses papiers. La bonne nouvelle, ils ont eu la semaine dernière.
Oui, c'est
seulement.
Ça.
Donc c'est là, fou, il peut officiellement commencer à travailler. Mais tout le long, il a étudié ici parce que son rêve, c'était devenir mécanicien pour le camion lourd.
Puis je l'ai entendu en entrevue, puis on dit, ben là, à Star XXQ, vas-tu faire d'autres films? Puis
non,
je sais pas, ça m'intéresse pas, je veux être mécanicien.
Oh oui, puis oui, c'est quand même drôle. T'es en train de rafler plein de prix, mais c'est pas ça qui le passionne dans la vie. Il a juste décidé de participer à l'aventure comme ça. Donc,
mais des fois aussi, c'est le bon comédien pour le bon rôle.
Effectivement.
C'est-à-dire qu'après ça, tu sais, ça, on le mettrait dans de brutaliste puis ça marcherait pas pantoute. Tu sais.
C'est ça. Il pouvait jouer, évidemment, le personnage parce qu'il a vécu ça quand même à certains égards. Donc, si vous voulez voir dans un film très touchant, très enlevant, l'histoire de Suleiman, moi, en fait, c'est mon cœur, mon coup de cœur de la semaine.
Oui, c'est
assurément
vraiment bon. C'est sûr qu'on note aussi des le réalisateur l'a dit, là, on le compare beaucoup, évidemment, au frère Dardenne pour ce genre. Dès que t'es un peu social en Europe, lui dit dans la thématique peut-être, mais pas dans nécessairement l'esthétique du film.
Effectivement, parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer à Unifrance. Et un journaliste lui a posé cette question-là. Et en fait, c'est beaucoup inspiré plus du cinéma d'Andrea Arnold et effectivement des frères Safdie et Uncut Gems qui était sa grande inspiration, surtout de montrer Paris d'une autre façon, puis une Paris effrénée à la course qu'on est moins habitué, moins carte postale. Puis je pense que c'est
j'ai
bien,
pas lu ton entrevue parce qu'elle n'était pas encore en ligne, elle doit
ça
s'en
sent
venir.
Bien, ça
c'est
sent.
Ça, mais j'en ai lu une autre, c'est ça qu'il disait, Uncut Gems, comme beaucoup dit. C'est un film qui est captivant, qui est passionnant, mais que je ne suis pas sûr si au final on l'aime. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, toi, ou pas.
Non, je n'ai jamais
vu. C'est incroyable, tu ne peux pas quitter tes yeux de l'écran, tu le suis. En plus, ça fait partie du renouveau d'Adam Sandler quand il joue du drame pour les quelques fois et qu'il fait bien ça. Mais après, tu finis le film, tu dis « OK, je ne peux plus jamais réécouter ça de ma vie », mais c'est captivant. Là. C'est comme,
c'est
je
une
sais
expérience
pas...
en
ouais,
soi.
C'est d'écouter. Comme peut-être un peu comme le monde qui, des fois, dit hey, « j'ai fait de la coke une fois, puis je sais qu'il ne faut plus jamais je refasse ça, parce que c'est trop capoté, puis etc. » Sinon... Fait que c'est un peu ça, ce film-là, tu es captivé, mais tu es comme « Ah, c'est comme insupportable, genre. » Fait que c'est une relation amour-haine.
Ouais.
Puis il notait aussi un film que je me suis dit que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié il y a quelques années, à plein temps, avec Laure Calamy, qui était un peu la même idée. Elle vivait en banlieue, elle essayait de trouver de l'argent pour sa famille. Puis il y avait la grève des métros, elle vivait en 2 heures de Paris, puis elle avait 3 jobs en même temps à mentir à tout le monde pour essayer de juste d'arriver à ses fins, tout simplement, là, d'arriver au bout de la journée. Voilà.
Allons dans un autre ton très
Tu vas aller où? J'ai déjà oublié.
Oui, bon, on va aller dans le plus contemplatif, peut-être, avec Presence de Steven Soderbergh.
Oui, c'est ça. Le Soderbergh, si je ne me trompe pas, est à la retraite et fait très mal ça parce qu'il va sortir... il sort ce film-là, il en sort un autre dans 2 mois. Alors, écoute, c'est peut-être
ça.
Finalement,
trips,
il fait les films qu'il veut, quand il veut. Il y en a ça aussi, des fois, ils prennent leur retraite, puis 3 mois après, ils retournent dans la même compagnie, mais juste des rôles un peu différents.
Mais là, on a droit au Steven Soderbergh plus expérimental, parce que c'est un des rares cinéastes qui est quand même capable d'aller jouer dans les blockbusters américains, des films à très grand budget, plus commerciaux.
Ouais, Logan Lucky, puis des choses comme ça.
Et aller faire des trucs très expérimentaux, tourner pour quelques centaines de milliers de dollars.
C'est quoi, son plus populaire, ça doit être les Ocean
c'est
Eleven.
Ocean's Eleven. Ouais, c'est Erin Brockovich aussi.
Oui, c'est vrai, bref. Presence, qui est disponible juste en version anglaise. Ah oui, j'oubliais de dire pendant que j'y pense, Brutaliste est disponible en version anglaise ou sous-titré français. Je sais qu'il y a une version française qui est en cours de production, mais elle va arriver seulement dans quelques semaines au Québec. Pour Presence, donc, on suit une famille qui emménage dans une maison. En fait, on arrive dès qu'il emménage là, il achète la maison et il emménage. Sauf que la maison semble hantée par une espèce de présence surnaturelle. Et c'est quand même un film... c'est pas un film d'horreur, parce qu'il y a un esprit, on se dit « OK, c'est un fantôme ». C'est vraiment un drame surnaturel. Ouais.
Si vous avez vu la bande-annonce, ça peut être un peu trompeur à ce niveau-là. Là. C'est pas activité paranormale.
Non,
là.
C'est ça.
Pas là du tout.
Et c'est vraiment un film expérimental, comme tu as dit. Pas que c'est pas expérimental dans le sens « je comprends rien » puis c'est pas écoutable, mais...
La forme.
La forme, c'est la caméra et l'esprit. Oui. L'espèce de fantôme. Fait que nous, on se promène, on vole au-dessus d'eux, autour d'eux, on tourne. Des fois, tu sens que la jeune fille, par exemple, elle a l'air un peu plus allumée, peut-être un peu plus connectée. Des fois qu'elle se retourne, mais elle voit rien. C'est pas un esprit qui veut les terroriser. C'est un esprit qui cherche pourquoi il est là et qui veut un peu communiquer avec eux, essayer de comprendre son objectif. Pas aussi weird que A Ghost Story il y a quelques années, par exemple, ou la scène de manger une tarte puis des affaires comme ça.
Faut souligner que l'expérimentation, il y a plus de sa réalisation, Soderbergh, où c'est de longs plans séquences racontés sous forme d'ellipse.
Mm-hmm.
Et c'est lui qui tourne, donc, avec un iPhone.
Ah, je savais pas ça.
Ouais, okay. C'est ça. Fait qu'il suit l'homme.
Pour vrai, ça a dû prendre 18 jours de tournage.
C'est 11 jours.
11 jours, c'est ça. Fait que c'est ça. Ce genre de production-là, ça sonne. Et ce qui est drôle, c'est que scénarisé par David Koepp, qui est comme un grand scénariste de Jurassic Park, puis qui d'ailleurs va retourner dans la version de cet été, Rebirth, le premier Mission Impossible, de Panic Room, Spider-Man, il a travaillé avec tellement de grands réalisateurs. Et y avait-tu déjà travaillé avec Soderbergh?
Oui, et en fait, leur association est née récemment sur un film de plateforme qui s'appelle Kimi, un film d'action.
Qui a vraiment été tourné pendant la pandémie, très pandémique. Puis il y avait aussi un peu cette vibe-là, filmé avec des cellulaires et tout. Là.
Donc, j'imagine présence, c'est un prolongement de ça. Puis Black Bag, scénarise également Black Bag qui s'en vient au mois de mars.
Fait c'est que, ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est ça. Fait qu'on va un peu suivre cette famille-là. Qu'est-ce que l'esprit veut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai trouvé ça quand même très captivant comme film. J'étais vraiment. J'ai vu du monde qui n'a vraiment pas aimé parce que c'est une proposition singulière. Mais moi, je sais pas. J'ai trouvé ça super intéressant. Écoute, après, est-ce qu'on est en adéquation avec la fin? On vous laissera découvrir, mais j'ai pas perdu mon temps. Il y a Lucy Liu quand même qui joue la mère de famille, qui est peut-être la personne la plus connue du casting. Ouais.
Mais la jeune ado est très bonne. Ouais. Je pense que c'est une jeune Canadienne qui vient un peu de la télé. Puis, non, tu sais, il réussit dans un film très minimaliste à capter notre intérêt parce qu'on veut savoir, OK, ça s'en va où, qu'est-ce qui va se passer, puis sans tomber dans les clichés non plus, là, fait que... Mais encore là, un film pas pour tout le monde.
Non, c'est ça, c'est plus une sortie un peu plus nichée.
Ouais, allons-y avec
comme un fantôme qui se niche dans le coin d'un garde-robe.
Un autre film qui se voulait un peu plus grand public, mais encore là, qui peut surprendre, je pense que ça va être mieux de mettre en garde, c'est Saint-Exupéry de Pablo Agüero.
Oui, un biopic que j'apprécie parce que c'est ça, on n'est pas sur toute la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, j'avais un blanc, c'était Alexandre, Antoine de Saint-Exupéry, mais on se concentre sur l'année 1930, en Argentine, il travaille... Saint-Exupéry, c'est tellement bizarre, parce que dans le fond, c'est un pilote d'avion, poète.
Oui, c'est ça. Et auteur, c'est ça. On l'associe avec Le Petit Prince, mais il est tellement plus que ça.
C'est ça. Mais moi, ce qui me mélangeait, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire, pas dans le film, mais dans l'histoire avec un grand H, je me disais, sais-tu que c'est pas un pilote d'avion, puis c'est un auteur, mais il a écrit des livres où il est pilote, puis on mélange, puis c'est comme, non, c'est un pilote que son hobby, c'est d'avoir écrit genre un des livres les plus populaires pour la jeunesse
c'est
et
ça.
Tout. Fait que, en 1930, il travaille comme pilote pour livrer le courrier. Puis un peu comme les chemins de fer, il essaie de rivaliser avec les chemins de fer en créant des nouveaux chemins. Mais tu sais, l'aviation est là où elle est en 1930. Fait que les choses sont plus compliquées qu'aujourd'hui. Fait que son but, c'est de survoler la cordillère des Andes qui est genre à 6000 mètres d'altitude. Puis leurs petits avions ne peuvent pas faire ça. Mmh. Et ce qui va arriver, c'est que son pote Henri Guillaumet va entreprendre cette première expédition-là et va disparaître. Alors lui, Saint-Ex va commencer à trouver des moyens pour partir à sa recherche de son meilleur ami, aidé par la femme de celui-ci. Alors Saint-Ex est joué par Louis Garrel, son ami Henri Guillaumet, qui est aussi une personne réelle, tout ça était inspiré de faits réels, joué par Vincent Cassel, et c'est l'Allemande Diane Kruger qui joue Noël Guillaumet, donc la femme du personnage de Cassel. C'est un film qui se fait un peu virevolter, si je peux me permettre. Parce que, autant il y a des vraies images de la cordillère des Andes qu'on a dû filmer par drone ou par hélicoptère, je sais pas. Mais après, il y a beaucoup d'effets numériques qui ont pris la stratégie de mettre comme des écrans qui recréent cette atmosphère-là. Fait que je pense que c'est très volontaire de ne pas avoir voulu créer une espèce de fond vert ultra réaliste, mais plutôt quelque chose d'un peu onirique dans cette façon lorsqu'ils volent. Et aussi, je pense pas que c'est un film qui a coûté 70 millions d'euros. Là. Je crois que.
Je pense qu'il a coûté quand même assez cher ce que je suis allé lire. Ouais, désolé. C'est ça. Mais c'est très voulu. Donc, il y a une approche très conte. Fait qu'on n'est pas dans la biographie standard, même dans la façon de raconter. Tu le dis, on est dans le rêve, dans l'onirisme, parce que tout au long de son parcours d'essayer d'aller trouver son ami.
Il croise des éléments.
Des éléments qui vont inspirer Le Petit Prince et tout ça. Mais cette partie-là de l'histoire, elle est tirée de son récit Terre des Hommes, qui était un best-seller mondial. En fait, c'est ce qui l'a fait connaître avant même Le Petit Prince. Terre des Hommes. Donc, si ça vous intéresse d'en connaître un peu plus, vous pourrez aller lire ça. Ce qui est singulier, c'est que Pablo Agüero est argentin, demeurait dans le village où Saint-Exupéry passait, donc très connecté par son histoire, ses racines à Saint-Exupéry. Le seul livre qu'il avait à la maison, c'était Le Petit Prince. Donc, il était comme tout
destiné. C'est un projet de passion.
Vraiment. C'est un grand passionné de Saint-Exupéry. Donc, il tenait à rendre hommage au personnage, mais avec l'enrobage un peu des films des années 20, des années 30. Il disait vraiment son inspiration, c'était Georges Méliès.
Ah, okay.
Fait qu'il est beaucoup dans ce type-là d'histoire. Fait que ça peut être un peu déroutant. C'est quand même intéressant. Il y a des choses... même visuellement, c'est intéressant à voir, mais il y a comme un décalage de ton qu'on est peut-être aujourd'hui, en 2025, moins habitué à voir. Donc, sachez là, si jamais vous décidez d'aller le voir, là, puis toi, vous allez voir votre tante, votre mère plus âgée des fois, quand on va aller voir un film Saint-Antoine-Exupéry, c'est peut-être pas tout à fait ça. Là.
Ben, tu vois, moi, ça m'a fait l'effet inverse du brutaliste, c'est-à-dire que quand j'ai vu Saint-Ex, je pensais que ça serait vraiment pas bon.
Mm-hmm.
Parce que je voyais des critiques en France, il y a eu de la misère.
Ouais, c'est
il est sorti pendant les fêtes, puis il y a eu de la misère à tirer son épingle du jeu. Fait que je m'attendais au pire, puis j'ai fait « Ah, mais non, j'ai apprécié mon visionnement et tout. » J'aimais justement ce côté-là de « Ben, c'est pas de sa naissance à sa mort. » On le pogne dans les 30, mais il est mort jeune, Saint-Ex, là, qui vit, aime l'avion, périt par l'avion. Même chose pour son ami Guillaume. D'ailleurs, un peu fun fact, si tu me permets, c'est plus une cocasserie, c'est que dans vraie vie, à ce moment-là, les gars, ils ont plus comme 30, 28 puis 30 ans. Même Guillaume est plus jeune. Il est plus expérimenté en aviation, mais il est plus jeune que Saint-Ex. Mais les comédiens, Garel, il a 40 ans, il est comme 10 ans plus vieux. Cassel est 30 ans plus vieux que son personnage parce qu'il a 58. Puis Kruger a à peu près 48 ans. Là, j'ai pas trouvé son personnage avec quel âge, mais on imagine qu'il avait le même âge ou plus jeune que son mari, ce qui est souvent le cas. Fait qu'on est tous à un bon 10 à 30 ans vieux. Mais c'est des faces qu'on connaît, rendu là, c'est pas grave, t'apprécies l'histoire, là, ça change rien de
savoir. C'était d'ailleurs voulu d'Agüero qui disait qu'il voulait, des archétypes, représenter des archétypes au cinéma dans son histoire. Et c'est en plein ça. Fait qu'il disait, il voulait pas que Garel joue Saint-Exupéry, mais que Garel soit lui-même en Saint-Exupéry.
Okay.
Et même chose pour Cassel, qui est le héros typique français et tout ça. Donc d'ailleurs, j'ai aussi la chance de rencontrer Pablo Agüero, alors vous pourrez en savoir un petit peu plus aussi sur...
grosse rédaction à faire cette semaine.
Oui, dans les prochaines semaines. Si ça vous intéresse d'en connaître plus sur les coulisses de production, il y a beaucoup d'entretiens qui s'en viennent en lien avec les films français. Donc, fait que voilà, pour Saint-Exupéry.
J'ai d'autres films à aborder et restons dans les airs. Je vais te parler du film d'action Flight Risk, vol à haut risque de Mel Gibson. C'est pas lui qui a écrit, mais c'est lui qui réalise ce film, qui a joué dans d'innombrables films d'action quand même, et qu'il en a réalisé quelques-uns quand même à sa façon. Braveheart, Hacksaw Ridge, Apocalypto.
Ouais, puis il avait joué dans un film d'action, un film avec d'aventure avec des avions qui était Air America. Je sais pas si tu te rappelles de ça, avec Robert Downey Jr., je pense 90 dans ces années-là.
Bon, voilà. C'est une agente du gouvernement, une Marshall, pas Air Marshall, mais juste une Marshall, qui capture, qui met la main sur son informateur pour faire tomber un gros gars de la mafia, qui doit prendre, sont au fond de l'Alaska, fait que là, ils prennent un petit Cessna avec un pilote pour retourner sur la terre ferme, si on veut, retourner sur le... Main America, parce que les Américains oublient souvent qu'ils possèdent l'Alaska.
Ouais.
Parenthèse politique. Et finalement, ils vont découvrir assez rapidement que le pilote, c'est pas l'homme qui le croit, puis c'est plutôt un tueur à gages engagé pour faire tuer tout le monde et pour pas que ce comptable-là parle. S'il y a principalement trois comédiens, donc Mark Wahlberg qui joue ce pilote, donc un méchant. Ça fait, ouais. C'est arrivé à l'occasion, mais pas très souvent récemment qu'il jouait les bad guys et même les bald guys dans ce cas-là.
Il a trafiqué son look un petit peu.
Oui, ouais, c'est comme rasé le devant, là, comme s'il y a une couronne de cheveux. Michelle Dockery qui joue la policière et Topher Grace, ancienne vedette de The 70's Show, qui joue ce comptable-là un petit peu nerveux et tout. Bon casting pour ça. Ouais. C'est vraiment un trailer d'action. Moi, ça me rappelait un peu Cliffhanger, justement, des époques Stallone. Je pense à Cliffhanger parce que c'est beaucoup dans la glace et tout, là, quoi qu'ils sont dans l'avion, mais vu qu'ils survolent des contrées froides et autres. On voit que Gibson a de l'expérience. T'sais, le film a les forces et les faiblesses du genre. C'est un peu « what you see is what you get », mais c'est pas complètement bidon. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que le troisième acte qui ralentit un peu pour raconter des traumas de jeunesse qui ont défini ce qui nous sommes. Puis là, avant de retourner dans la grosse action, t'sais, du monde qui ont... Tout le monde aurait eu 7-8 commotions cérébrales dans ce film-là, mais ça se passe bien quand même. Là, t'sais. Fait que... Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'on est toujours dans l'avion, on est toujours avec eux. Il n'y a pas de scène où on est comme... Ben, ça commence à l'extérieur de l'avion, évidemment, là, mais il n'y a pas de scène où pendant qu'eux volent, là, on voit les autres. Mais elle va communiquer soit avec la radio, soit avec son cellulaire ou d'autres. Fait que là, ça devient comme... Je me souviens plus d'autres exemples, mais tu sais, des films comme ça que on reste sur eux, mais là, on entend la communication, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il arrive, c'est qu'il dit, si y a un tueur là avec nous, qu'on essaie de menotter puis de maîtriser, ben c'est que quelqu'un était au courant. Donc, il y a une taupe dans toute dans la police, dans toute cette opération-là. Fait que avec 2-3 téléphones, en essayant de maîtriser ce qui se passe à bord, essaie de comprendre d'où vient le problème, où est la faille, finalement.
Il ne faut pas oublier que Gibson est quand même un très bon réalisateur. Honnêtement, ses films sont toujours intéressants.
Oui, oui, oui.
Il y a quelque chose de viscéral dans sa réalisation. Donc, moi, je suis le genre d'affaire que je vais être curieux d'aller voir, honnêtement.
Oui, oui, très sympathique. Puis c'est ça, tu sais... En plus, je trouve que souvent les films d'action, ils sont envoyés beaucoup direct sur plateforme.
C'est vrai.
Je trouve que quand il y en a un, c'est Lionsgate ici qui produit. Quand il y en a un au cinéma, ben j'aime bien ça. Ça me rappelle, tu sais, j'ai grandi vraiment avec justement ces films-là des années 90, toi, un peu plus les années 80. Ouais. Mais tu sais, on est moins dans le muscle era. Il n'y a personne qui se retrouve en bédaine à être huileux puis à flasher ses muscles. Là, mais des films de coups de poing puis de balles dans la jambe que tu fais « Ah, mais tu es encore là, finalement. » Jusqu'au moment où là, ça soit... pratique pour le scénario que là tu t'évanouisses ou etc. Ou, on va décider quand tu auras perdu trop de sang. Là. C'est pas la c'est pas la réalité qui va en faire ainsi. Autre thriller, mais plus réaliste et on retourne sur la Terre finalement. September 5, 5 septembre de Tim Felbaum, film qu'on attendait depuis quelques semaines. Il a pris l'affiche très limitée avant les fêtes. On pensait qu'au Québec, il arriverait il y a une semaine ou deux, et voilà. Fait que là, il arrive finalement, je pense qu'il était à Montréal avant, mais là, il arrive plus largement au Québec, donc en ce 24 janvier. On est dans le fond aux Jeux olympiques de 1972 à Munich, en Allemagne, et on suit l'équipe de la chaîne ABC qui couvre le sport. Et c'est comme une des premières fois qu'il y a de la télévision directe comme ça pour les Olympiques. Et il va y avoir l'historique et terrible prise d'otage des athlètes israéliens par des terroristes palestiniens, les Black September, le mouvement Black September. Puis eux sont là, sont live, puis ils disent « Ben, je pense qu'on devrait couvrir, c'est notre devoir. Si les athlètes subissent ça, faut couvrir. » Fait que c'est la première comme couverture live et dans les débuts aussi de l'utilisation du mot « terrorisme ». Fait qu'il y a cette couverture-là. Fait que c'est un film qui est très rapide. Ça dure 95 minutes, 1h35, puis ça inclut le générique. Fait que, mettons, 1h30, c'est un peu du procédural puis du technique. Fait que oui, on est un peu sur la mise en onde puis ces choses-là, mais il n'arrive pas trop de problèmes de genre « Oh non, il y a du givre sur l'antenne. » On n'est pas là-dedans parce qu'on se fie sur les faits réels, si on veut, qui s'est produit à ce moment-là. Ouais. Fait qu'on n'a pas ajouté trop de faux enjeux. T'sais, les enjeux, il y a des enjeux éthiques. Là. Si quelqu'un... OK, on les filme, là, mais si quelqu'un gunne, on peut-tu mettre ça à la télé? Là, une assassination
dans
live?
Dans ces années-là, là,
ouais,
c'était
c'est
comme...
ça. Puis il y a aussi la vérification d'informations. Ça, c'est très d'actualité hein, avant de dire qu'est-ce qui se passe. On est-tu certain? Puis, tu sais, moi, je me souvenais un peu de cette histoire-là par rapport au film Munich de Steven Spielberg, justement, qui était un peu la retaliation, la vengeance que les Israéliens faisaient par la suite. Ça me donne envie de le revoir d'ailleurs aussi.
Ouais, c'est peut-être un bon complément.
Ouais, hein. C'est ça. Fait que là, on est vraiment plus dans ce côté-là télévisé. C'est pas un film non plus qui met trop d'avant. Tu sais, ça a donné que c'était les Américains qui étaient là, mais qui est pas trop, on dit-tu, hégémonieux ou qui a
bombé le torse.
Ouais. Parce qu'en fait, c'est majoritairement une production allemande, justement, okay. Ce film-là. C'est une coprod, mais c'est Allemagne-États-Unis. Très intéressant pour ça. C'est pas des vedettes vraiment dans le film. Je pense que c'est Ben Chaplin qui joue un des aiguilleurs qu'on voit le plus. Peter Sarsgaard, qui est un. Il est-tu dans la famille avec. Ouais, c'est un des fils à Stellan Skarsgård. Mm-hmm. Mais es-tu avec Alexander, puis Bill Skarsgård, puis tout. Il est plus cousin.
Je pense qu'il est cousin.
Parce qu'il est vraiment plus vieux qu'eux, là. Qui joue l'espèce de chef d'antenne. Fait que c'est lui qui prend les grosses décisions. Léonie Benesch, qu'on avait découvert dans la salle des profs l'an dernier, qui était en nomination meilleur film international pour l'Allemagne, qui joue justement le rôle de elle travaille pour ABC, mais dans le fond, le temps de ce contrat-là, c'est une Allemande qui fait la traduction pour eux, fait qu'elle devient bien utile quand ils captent des messages radio de police allemande, puis ils veulent savoir qu'est-ce qui se dit. Super bon film à écouter. Il a remporté plusieurs prix de justement meilleur montage. Il est en nomination Independent Spirit Award, comme on dit comme on a dit précédemment, aux Oscars, juste scénario original, mais quand même. Mm-hmm. C'est ça, une espèce de thriller historique très captivant que j'ai apprécié beaucoup. On est un peu là-dedans cette semaine. Il y a beaucoup de films, fait que le Soleiman est un peu aussi là-dedans, le genre le juste à temps. Un dernier, Hard Truth, deux sœurs de Mike Lee, que je dois avouer, c'est un cinéaste que j'avais jamais vu aucun de ses films, très connu pour Secret and Lies en 1996.
Je pense que c'est le seul que j'ai vu de lui.
Et d'ailleurs, c'est des comédiennes de l'époque de Secret and Lies qui reviennent ici. C'est deux sœurs. Il y en a une, Pansy, qui est 100% rongée par une espèce de... Tu sais, dans le fond, elle est pratiquement en burn-out. Là. Je pense qu'elle elle travaille pas. Elle est un peu femme au foyer, mais tu sais, son mari l'exaspère, est écœuré. Son fils, il est très fermé dans son monde, il s'enferme dans sa chambre, il fait pas grand-chose, fait qu'elle se demande, elle est naturellement inquiète pour lui. Mais tout ça fait qu'elle est une espèce de Karen. Elle haït tout le monde, elle crie après tout le monde ne comprend pas et fait pas les affaires dans le bon sens. Elle est très aigrie, elle est fâchée, elle est épuisée de tout ça. Et à l'autre spectre, sa sœur qui est... Oui, qui a élevé toute seule ses deux filles, mais qui est beaucoup plus dans la mode, la bienveillance, la joie, et plus... ouverte au bonheur, comme on dirait. On parlait de magie puis d'eau de lune. Là. Elle est beaucoup plus ouverte au bonheur. C'est une coiffeuse. Elle parle avec ses clientes et tout. Ça se passe en Angleterre, mais en tout cas, c'est britannique. Donc, c'est ces deux sœurs-là. Fait que c'est pas un film qui va s'acharner sur le misérabilisme du monde et tout. C'est plus cette personne-là qui est très malheureuse. Fait que donc, on va travailler sur le lien entre les deux sœurs qui est peut-être, même s'ils sont épuisée l'une de l'autre, qui est peut-être la seule qui peut la sortir un peu de cette forme de marasme-là, qu'on comprend, c'est lié aussi avec la mort de leur mère. On est dans le temps de la fête des mères quand elles se revoient. Fait qu'un genre de petit drame de mœurs, c'est quand même comédie dramatique. On n'a pas le choix un peu de rire des fois de l'exagération de ça. Mm-hmm. Mais très appréciable. Je pense quand même que... Hâtez-vous si ça vous intéresse, là, ce genre de film-là. En ce moment, on est très Oscar et tout, fait que les autres films vont s'enchaîner rapidement, je pense, sur les écrans. Si c'est surtout, il y a des blockbusters qui s'en viennent, là, mais quand on parle de films d'auteur, de films de cinéma international et autres, je pense qu'il faut s'empresser. C'est assez pour cette semaine. Il y a peut-être d'autres sorties encore plus limitées. Là, on est vraiment dans une grosse période de films. La semaine prochaine, entre autres, on parlait de blockbuster pour enfants, Super Chien, Dogman comment il s'appelle, Pikey,
Dave Pilkey.
Dave Pilkey, ouais. C'est ça, Captain Underpants et tout. C'est un personnage que je connaissais pas du tout, toi qui étais un peu plus dans le milieu libraire.
Séries jeunesse qui vend le plus, donc je pense que ça va très bien fonctionner.
C'est ça, puis que ça a traversé même en francophonie. Là, c'est-à-dire à l'époque, Captain Underpants, c'était très anglo-saxon, là, ça c'était moins adapté. Là. Mais tant mieux pour Super Chien qui est mi-policier humain, mi-chien. Peut-être, on va essayer de pas trop repousser à plus tard. Fait qu'on pourra sûrement parler de Je suis toujours là, justement, qui représente le Brésil au cinéma international. Et peut-être aussi Une langue universelle de Matthew Rankin, qui, on ne l'a pas dit d'entrée de jeu, malheureusement, n'a pas fait la courte liste donc dans les cinq nommés, mais quand même très curieux de voir le film qu'on n'a pas encore vu. Et sûrement 8 autres surprises qui vont prendre l'affiche. Contactez-nous comme d'habitude par courriel balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le Magazine Monciné disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province et restez à l'affût pour tous les articles qui vont sortir dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais quelques-uns dans les prochains jours. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et si jamais quelqu'un de votre entourage sent une présence, aussi bien les écouter. Ça peut vous éviter des conséquences tragiques.